Sud Radio CSA La France, Nathalie Schrengerma.
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature, faire tomber.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission des talents français, tous les dimanches de midi à 12h30. Et quel bonheur de commencer cette émission avec Changer le monde de Woolsey, le pouvoir des fleurs. On va essayer de changer le monde ensemble ce matin. Je vous rappelle que jeudi 29 juillet, c'était le jour du dépassement mondial. L'humanité au 29 juillet a déjà consommé pour 2021 l'ensemble des ressources que la Terre peut générer chaque année. Et la France, malheureusement, ne fait pas partie des meilleurs élèves. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir justement des associations qui se battent pour nous sensibiliser au zéro déchet, à la biodiversité, au circuit court. Bref, ils innovent pour la transition énergétique et la décarbonation. Tout à l'heure, nous serons avec Alice de Green Minded, qui a été créée en 2016 pour réduire l'impact des déchets et plastiques sur l'environnement et notamment lutter contre les mégots, un fléau pour notre planète. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir une autre association qui a fait le pari des fleurs produites localement, vendues en circuit court et en favorisant l'insertion des personnes en difficulté.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Carole Bataillard.
Oui, bonjour.
Alors, vous travaillez pour Fleurs de Cocagne, une très belle association, un concept complètement novateur et inédit en France et surtout, j'allais dire, une belle alternative aux fleurs actuellement proposées sur le marché, dont la majorité est produite à l'étranger, et je parle sous votre contrôle. En France, on estime que 9 fleurs sur 10 sont importées. Elles viennent du Kenya, d'Éthiopie, de Colombie ou encore d'Équateur.
Et oui, malheureusement, c'est un constat qu'il est important de rappeler, c'est que la grande majorité, vous l'avez dit, 9 sur 10, des fleurs qui sont vendues chez les fleuristes, dans les magasins divers et variés en France, viennent de loin. Et voilà, donc elles ont forcément un impact environnemental.
Mais comment on explique que, justement, on n'a plus aussi facilement des fleurs françaises chez nos fleuristes?
Ouais. Alors ça, c'est une longue histoire, mais c'est toujours pareil. C'est les coûts, la baisse des coûts, la volonté de faire moins cher. Et puis, historiquement, je la fais courte, mais un positionnement des Hollandais très fort.
Ah oui.
Avec une quasiment un monopole des Hollandais qui ont, alors, dans les années 60-70, qui continuaient à produire en Hollande, mais avec notamment les chocs pétroliers, l'augmentation des coûts pour chauffer les serres, ils ont commencé à s'exporter et à acheter des terrains, comme vous l'avez dit, au Kenya, en Éthiopie, en Colombie, etc. Donc proche de l'équateur, donc de la zone équatoriale, pour justement avoir un climat idéal toute l'année et une main d'œuvre moins chère, évidemment.
Bien sûr.
Et puis des coûts de production aussi moins chers, puisque pas de chauffage. Et voilà. Donc du coup, ça s'est passé comme ça. Je pense que vraiment l'augmentation du prix du fuel et du coup du chauffage a incité les Hollandais à s'exporter, mais oui, ça a été...
Sans compter l'impact environnemental, et on en parlera aussi, l'impact social. Racontez-nous justement ce concept de Fleurs de Cocagne, cette association.
Oui, alors Fleurs de Cocagne, c'est une association qui a été créée en 2014, qui est installée en Essonne, donc environ une trentaine de kilomètres au sud de Paris, dans la campagne essonienne. Et c'est une exploitation horticole historique qui a été reprise donc par l'association. Notre métier, c'est d'employer des personnes, dans notre cas majoritairement des femmes, qui sont éloignées de l'emploi, qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, mais qui veulent se remettre dans une dynamique professionnelles et qui ont besoin à un moment donné d'un coup de pouce, hein, qu'on leur remette le pied à l'étrier. Et donc ces personnes, elles viennent travailler chez nous, elles sont salariées et ce qu'elles font, eh bien, c'est produire des fleurs en agriculture biologique, sans chauffage. On ne chauffe pas nos serres, on respecte le rythme des saisons et avec ces fleurs, nous faisons des bouquets, des compositions, on transforme notre production et donc on est aussi fleuriste et on fait des mariages, des ateliers, tout ce que vous pouvez imaginer qu'un fleuriste peut faire.
Oui, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des roses toute l'année. Il y a plein d'autres fleurs. Alors justement, quelles sont ces fleurs produites localement et qu'on peut avoir, par exemple, en dehors du printemps et de l'été, je sais pas moi, en automne, en hiver, ou bien en été d'ailleurs, parce que c'est déjà moins prolifique qu'au printemps. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme fleurs françaises qui sont très agréables également et qui auront une odeur pour le coup?
Oui. Alors c'est vrai que la diversité est est énorme. Nous, on produit plus d'une soixantaine de variétés à l'année. Donc là, en ce moment, au mois de juillet-août, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Hein. C'est l'été, il y a beaucoup de fleurs. On a des scabieuses, des zinnias, des mufliers, on produit des roses aussi, des œillets, des solidagos, plein de diversité de fleurs qu'on ne trouve pas d'ailleurs forcément chez le fleuriste, parce qu'on est plutôt sur des fleurs un peu standardisées justement par cette industrie de la fleur, alors qu'en local, souvent, les producteurs, ils ont plus de diversité, un peu comme je fais souvent le parallèle avec le petit producteur maraîcher qui peut se permettre de faire des variétés un peu moins connues, avec peut-être un rendement un peu moins fort, mais qui sont super, et du coup, c'est vrai que ça permet d'avoir encore plus de choix au final. Après, sur la question de la saisonnalité, c'est vrai que nous, en plein hiver, en Essonne, on n'arrive pas à avoir de fleurs parce qu'il fait froid et voilà, c'est quand même, on est quand même en Île-de-France. Mais par contre, nos collègues varois, même du sud-ouest, arrivent à avoir des fleurs quasiment toute l'année parce qu'ils ont quand même un climat plus doux. Donc même en restant sur du made in France, alors pas forcément fleurs de cocagne, mais il y a d'autres producteurs qui ont des fleurs quasiment toute l'année.
Est-ce qu'il ne faut pas aussi changer nos habitudes? J'ai souvent entendu dire que les fleurs que l'on achète, les fleurs importées, il faut le rappeler, hein, sont aussi souvent bourrées de pesticides, ont tendance à durer plus longtemps que des fleurs sans traitement. Donc est-ce qu'il faut aussi accepter qu'un bouquet fleurisse moins longtemps, tout simplement?
Alors non, nous, de notre expérience, ce n'est pas le cas. Tout simplement pour une raison de fraîcheur. Parce que les fleurs qui sont importées, souvent, elles ont déjà plusieurs jours. Il faut imaginer, elles arrivent du Kenya, elles prennent l'avion, elles arrivent à Rungis, elles passent la douane, ensuite elles sont... ensuite elles attendent à Rungis le fleuriste vient acheter les fleurs, les amène dans son magasin, enfin voilà. Donc on perd vite 4-5 jours. On estime que certaines fleurs chez le fleuriste ont 5 jours parce que c'est juste le temps de transport, surtout si elles sont importées, alors que les fleurs locales, elles ont été récoltées la veille ou le jour même. Nous, les bouquets que nous livrons, ils sont réalisés avec les fleurs du jour même ou de la veille, et pareil pour d'autres producteurs qui produisent en local. Donc au final, on gagne en durée, en durabilité, en tenue en vase, comme on dit, parce qu'elles sont plus fraîches, tout simplement.
Donc là, le prochain combat de fleurs de cocaïne, c'est d'aller rencontrer tous ces fleuristes, hein, alors en Essonne et ailleurs, en élargissant bien évidemment aussi votre périmètre, pour convaincre ces fleuristes finalement de travailler avec vous. Est-ce que vous êtes entendu?
Alors, nous ne vendons pas aux fleuristes. Nous utilisons 100% de notre production pour faire nos propres bouquets qu'on vend.
C'est de la vente directe. D'accord.
Voilà. Alors, soit en direct, soit on vend aussi beaucoup via les ruches qui dit oui, ou des AMAP sous forme d'abonnement, ou une jardinerie qui est à côté de chez nous, et même un magasin qui est dans le Marais à Paris, c'est un magasin de la marque Lush. On a un fonctionnement un peu atypique, car comme on a une trentaine de salariés en insertion, notre objectif, c'est de leur proposer une activité créative et donc de transformer ces fleurs en bouquets. Par contre, nous sommes membres du collectif de la fleur française, qui lui, pour le coup, c'est une association aussi, le collectif, il y a 250 membres en France, des producteurs, des fleuristes, des grossistes, qui pour le coup, là, la mission du collectif et le fleur de cocagne en tant que membre, on est pareil, très très investi, c'est justement d'éduquer les consommateurs et aussi d'informer les fleuristes, de les aider à trouver des producteurs, parce que parfois le sourcing peut être difficile, d'encourager des porteurs de projets qui veulent monter une exploitation, commencer à produire des fleurs.
Recréer l'écosystème de la fleur française. J'ai découvert également le label Fleur de France. C'est un lien avec l'association Fleur Française ou c'est encore un autre label?
Il n'y a pas un lien avec le collectif de la fleur française, mais c'est un label qui a été créé et qui appartient, si on peut dire, qui est géré par l'interprofessionnalité du végétal en France, qui s'appelle Valor, et donc c'est un label qui qui prouve que les fleurs ont bien été produites en France.
Bon, et, on est dans la même dynamique. Il y a toujours cette volonté voilà, de revaloriser le terroir et la fleur française.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Carole Bataillard, pour cet éclairage sur Fleurs de Cocagne. Une très, très belle association et on l'a bien compris, l'insertion professionnelle aussi des personnes en difficulté. Donc, on l'a vu, hein, il y a l'impact environnemental et aussi social qui est très, très important pour Fleurs de Cocagne. Merci beaucoup, Carole Bataillard.
Merci à vous. Très bonne journée. À
également.
Bientôt.
Au revoir.
Ouais, au revoir.
Allez, on va se quitter un court instant et on se retrouve juste après avec une autre entreprise qui lutte, là encore, pour notre planète. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français, l'émission qui met en avant ces associations qui innovent pour la transition énergétique, pour la décarbonation, pour sauver notre planète. Je vous rappelle que le 29 juillet, donc jeudi dernier, nous avions déjà consommé pour 2021 l'ensemble des ressources que la Terre peut générer chaque année. Je vous propose de découvrir donc notre deuxième invité tout de suite, c'est Green Minded.
Sud Radio, c'est ça la France.
Green Minded, représenté par Alice Comble. Bonjour Alice.
Bonjour.
Alors justement, cette association Green Minded, expliquez-nous, elle est née en 2016, donc elle est assez récente. Expliquez-nous ce que vous faites au quotidien pour justement sensibiliser les nouvelles générations.
Alors effectivement, l'association est née en 2016 autour d'une problématique, celle des mégots de cigarettes. Qui est un déchet qui est extrêmement polluant parce qu'il est fait en plastique.
On a des chiffres, pardon, pour nous dire combien de mégots chaque année sont laissés comme ça, dans la nature ?
C'est 1 millier de mégots qui sont jetés chaque seconde sur les sols en France.
Voilà. Et vous le rappeliez à l'instant, c'est du plastique.
C'est du plastique. Un seul mégot pollue 500 litres d'eau. Et surtout, aujourd'hui, c'est le troisième déchet le plus mortel dans les océans. Après le matériel de pêche et les sacs plastiques.
Ouais.
Donc, en fait, c'est une urgence écologique d'agir face à ce déchet. C'est-à-dire, premièrement, de sensibiliser les fumeurs, parce qu'il y a peu de fumeurs qui savent que c'est un déchet plastique. Beaucoup jettent en pensant que ça va se biodégrader, etc. Et puis, il y a une urgence aussi à collecter ce déchet et à l'envoyer en usine de recyclage.
Et comment on les collecte alors ? Comment vous les collectez, ces déchets ?
Alors, nous, à l'heure actuelle, on les collecte via des kits de recyclage. En fait, c'est un système de seau hermétique qu'on envoie, les gens nous remplissent de mégots et puis ensuite, nous, on traite ça et on envoie ça en usine de recyclage. Mais ça s'adresse plutôt aux mairies et aux entreprises.
D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas chez les particuliers, c'est dans tous les lieux de collectivité, de rencontre.
C'est possible aussi chez les particuliers, mais vu que c'est un coût qui peut être un peu prohibitif.
Ouais. Et ensuite, il faut le rappeler, il y a des solutions de recyclage pour les mégots. Oui.
Il y a des solutions de recyclage pour les mégots, mais bon, avant tout, le premier geste, c'est de ne pas le jeter par terre. Et puis après, ça peut aussi détruire des centaines d'hectares. On a vu dans le sud-ouest, là, 850 hectares qui sont partis en fumée.
Oui, bien sûr.
À cause d'un seul mégot de cigarette, c'est quand même assez dommage. Et c'est, voilà. Donc, ça, c'est notre premier champ d'action. Et puis là, depuis l'an dernier, on a décidé de mettre les bouchées doubles et d'aller agir dans les écoles.
Ah, très
donc
bien.
De s'adresser aux primaires et aux collégiens, parce que là, on est face à une urgence climatique. Il faut rappeler qu'il y a une espèce animale ou végétale qui disparaît toutes les 20 minutes.
Alors justement, j'avais lu qu'on est à la 6e extinction de masse de la biodiversité, c'est-à-dire...
C'est ça, c'est-à-dire que la dernière grande extinction de masse qu'il y a eu, c'était l'extinction des dinosaures.
Ouais.
Et là, on est sur un rythme si rapide d'extinction des espèces.
Ouais.
Je le redis, une espèce disparaît toutes les 20 minutes, une espèce végétale ou animale. Donc on appelle ça la 6e extinction de masse.
Ouais.
Ça combiné, donc c'est la chute de la biodiversité, ça combiné au changement climatique, dont on voit seulement les prémices, là, avec les grands feux, avec les inondations,
les tempêtes, etc. Les inondations, les...
Voilà, c'est vraiment juste c'est l'entrée de ce qui nous attend. Donc on est face quand même à une urgence qui est assez grave, qui dépend, dont la survie de nos enfants dépend. Et donc nous, là, on fait deux programmes de sensibilisation chez les scolaires, les primaires, les collégiens, autour de deux thématiques. Le zéro déchet, parce que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Voilà, toutes les solutions de recyclage en bois existent. Le meilleur déchet, c'est celui pour lequel on dit non. Et la seconde
thématique... La protection de la biodiversité, j'imagine.
Exactement, la protection de la biodiversité.
Ouais, c'est assez...
Là, c'est vraiment urgent d'agir sur ces deux thématiques Et donc, on essaye d'intervenir partout en France. D'ailleurs, on cherche des animateurs.
Ah bah c'est bien, il faut lancer un appel. Ouais, des voilà, animateurs pour rejoindre Green Minded, pour justement sensibiliser de manière large
partout en France.
La jeunesse partout en France. Ouais. Vous voilà. êtes, là, aujourd'hui, vous êtes dans quel secteur, là où vous êtes le plus représenté?
C'est surtout dans le sud de la France pour le moment, mais bientôt on va s'implanter dans le Limousin, donc limitrophe Limousin-Dordogne. Donc s'il y a des gens par là-bas, c'est super aussi. Et voilà, ça c'est le meilleur moyen de nous aider, c'est de venir nous rejoindre. On organise aussi régulièrement des ramassages de déchets, ça aussi c'est la base.
Oui, sur les plages notamment, hein, il y a beaucoup de ramassage
partout,
de déchets, beaucoup, dans les forêts.
Ouais, partout où on peut. Donc pareil, s'il y a des gens qui se sentent l'énergie d'organiser un ramassage près de chez eux, ils peuvent rentrer en contact avec nous, on les accompagne, on leur fournit le matériel. Enfin, vraiment là, il faut...
Green Minded, je rappelle, voilà. Pour ceux qui nous écoutent, Green Minded, il suffit d'aller donc sur votre site internet, j'imagine, et on a...
Greenminded.fr, et si jamais les auditeurs qui nous écoutent veulent nous aider, mais sans dépenser d'argent, le meilleur moyen, c'est d'installer le moteur de recherche LILO, L-I-L-O, c'est un moteur de recherche qui nous permet de gagner à peu près 200 euros par mois, grâce aux recherches que les gens font sur internet. Ouais. Donc vous remplacez Google par LILO, en gros, c'est un moteur de recherche français qui respecte votre vie privée, et nous, ça nous aide énormément. Voilà.
Et comment votre volonté de sensibiliser est accueillie dans les écoles? Est-ce que c'est vraiment pris en compte? Est-ce que vous vous sentez écouté?
Oui, c'est vraiment pris en compte. On a la chance d'avoir rencontré des équipes enseignantes qui ont impulsé aussi un mouvement au sein de leur école, donc qui ont facilité nos interventions. C'est vrai que c'est toujours important. Donc pareil, s'il y a des enseignants qui nous écoutent et qui veulent nous faire rentrer dans leur établissement, avec grand plaisir, vous pouvez nous contacter sur le site internet. Et donc, c'est très bien accueilli. On essaye de s'adresser aussi à des publics REP+, parce qu'en général, c'est des quartiers où l'écologie est vraiment
complètement
mise de côté. Ouais. Et voilà, et donc c'est bien accueilli. Ce qu'on fait, on revient en général 2 mois après notre intervention pour savoir ce que les enfants ont retenu. Savoir si voilà on n'a pas si on a bien expliqué, s'ils ont changé leur comportement. Et ce qui est vraiment formidable, c'est de voir qu'il y a des retours, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui nous disent mais voilà, maintenant à la maison on arrête d'acheter des bouteilles d'eau en plastique, on boit l'eau du robinet, ou on a acheté un filtre permanent, des enfants qui arrêtent d'acheter des goûters dans des emballages plastiques. En fait, ils influent leurs parents, et ça, c'est un énorme levier d'action, les enfants.
Oui, c'est important, effectivement, parce qu'on peut comprendre que pour certains, voilà, c'est comme une contrainte supplémentaire dans le quotidien, mais il y a une urgence, et on l'entend dans le son de votre voix. On entend l'importance vraiment de se regrouper un maximum et d'essayer d'avancer tous ensemble. Ça doit être la priorité numéro un.
Ça devrait être la priorité, la préoccupation numéro un de toutes les personnes sur cette planète. Vraiment, ça devrait être vraiment exactement la priorité, parce qu'en fait, sans ça, il n'y a plus rien qui suit, en fait. Et ce qu'on va se prendre, là, dans les prochaines années, ça va être assez catastrophique si vraiment on continue de rester en paralysie.
Passif, oui, ou en tout cas, ouais. C'est vrai que c'est pas simple de se dire qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien pour agir sur justement sur l'écologie et faire en sorte d'améliorer les conditions de la planète et le cadre dans lequel on vit. Et bien déjà, il y a des petites actions toutes simples, vous l'avez rappelé, avec Green Minded, on peut aider à ramasser, ne plus jeter ses mégots par terre, sensibiliser, essayer...
Arrêter de consommer du plastique.
Arrêter de consommer du plastique. C'est vrai.
C'est vraiment le
il y a des pays, je pense notamment au Rwanda, où le plastique est interdit depuis plus de 10 ans, donc même un peu plus d'ailleurs. Donc oui, il y a la possibilité aussi de ne plus consommer de plastique, s'obliger à ne plus consommer là où encore on peut en avoir.
C'est ça. Et faire attention à qui on donne notre argent aussi, parce que après il y a des leviers qui sont activés, c'est-à-dire que ici on va nous enlever l'usage du plastique, mais dans les pays en Afrique, en Inde, etc. Les industriels vont inonder de plastique, de sacs. Enfin, en fait, ce qu'ils sont en train de réguler ici, ils sont en train de le reproduire dans d'autres pays pour se rattraper et continuer à faire de l'argent sur.
Pour ne pas perdre, effectivement.
Donc, faire gaffe à qui on donne son argent, parce que même si en France, il y a des mesures qui sont prises, ça ne veut pas dire que l'argent qu'ils gagnent, ça sert pour faire de bonnes choses.
Merci beaucoup Alice Combe de Green Minded. Merci de nous alerter sur ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut agir pour justement améliorer la planète dans laquelle on vit, essayer d'être plus écologique possible. Voilà. Merci beaucoup. On a bien compris l'impact des mégots de cigarettes. Attention, il y a du plastique dans les mégots de cigarettes. Merci Alice Combe de Green Minded.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et il est temps de retrouver notre French pèlerin qui continue sa marche sur la partie française du chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Ah, j'entends le bruit de vos pas là, vous êtes toujours en chemin, vous en êtes où là?
Je marche, 14e jour, là je viens de quitter Cahors dans le Lot. Et puis voilà, j'ai une très belle semaine, j'ai quitté l'Aubrac pour la vallée du Lot. J'ai dû faire à peu près 300 kilomètres.
Alors, quels ont été les temps forts de cette semaine?
Ah, ce qui m'a marqué, c'est vraiment la descente vers Conques, qui est nichée au creux d'une gorge sauvage. Alors, Conques, c'est un petit village d'Aveyron, un village médiéval. Et c'est surtout une abbatiale qui est une perle de l'art roman. Et sur le tympan de Conques, de l'abbatiale, il y a 124 personnages représentés sur le thème du jugement dernier. Alors j'ai l'explication complète, mais je ne vais pas vous la retranscrire parce que j'ai pas tout retenu.
Je crois qu'il y a aussi une rencontre dont vous vouliez nous parler.
Ah oui, oui.
Parce qu'on
fait
des rencontres sur les chemins de Compostelle.
Mais c'est un peu le but du chemin. On rencontre des gens, on se laisse guider. Alors j'ai rencontré Michel. Il tient un gîte qui s'appelle le Soulier de Saint-Jacques. C'est près du village d'Espérac, toujours en Aveyron. Et Michel, en fait, il fait partie de ceux qui maintiennent ce qu'on appelle l'esprit du chemin. C'est-à-dire permettre à chacun, quels que soient ses moyens, de faire le camino. On l'écoute, il va nous raconter son histoire.
Avec grand plaisir, on y va.
J'ai fait le chemin en 2003 et sur le chemin, une obsession ou une vocation qui s'est installée, qu'il fallait que je fasse quelque chose pour le chemin. La meilleure façon, c'est un gîte. Alors l'idée, c'était de l'acheter à 12, j'ai trouvé ça dans la Bible aussi. Et 12, chacun accueillait à son tour. Donc on partageait les frais et voilà, l'idée est très simple, mais c'était d'acheter un bateau et d'y mettre 12 capitaines. C'est un peu moins simple.
Donc c'est un peu cette idée-là.
Voilà, alors après on est parti sur un capitaine qui achète la moitié du bateau et puis les autres pleins de minoritaires qui aident. J'en faisais partie. Puis finalement, c'est moi qui ai tout acheté, donc j'ai eu une entrée d'argent. Et puis alors, tout ça confirmé avec avec le bon Dieu, des questions et des réponses. Donc il fallait à tout prix que, passage obligé dans ma foi chrétienne, de faire un accueil chrétien et d'y faire une chapelle. Et puis, rester dans l'esprit du chemin espagnol. Je ne dis pas français, mais espagnol, l'esprit du chemin. Et que toutes les bourses puissent aller à Saint-Jacques. Et manger tout ce petit monde.
Et voilà. Donc c'est le principe du donativo, c'est ça?
Voilà,
donc on peut expliquer aux auditeurs.
Donne ce que tu veux, ce que tu peux.
Donativo.
Voilà, en espagnol c'est ça.
Et ça dure depuis combien de temps?
14 ans que ça tourne.
Que ça tourne.
Ouais.
Et il y a combien de personnes qui viennent par jour?
Entre 10 et 15, on va dire, en moyenne. Ouais. Donc c'est... Et puis maintenant ils reviennent, c'est ça le pire, c'est qu'ils reviennent.
Ils reviennent, d'accord.
Et voilà, et puis on a Radio Tam Tam, on est inscrit à rien du tout. Sauf
Radio Tam Tam, voilà, c'est la radio informelle du
Camino.
Du Camino, c'est le bouche à oreille, c'est
voilà,
ça.
Voilà, et ça fonctionne à merveille. Voilà. Moi, ça m'a boosté dans ma foi chrétienne, une tolérance envers, avec toutes les religions. Pas forcément dire que j'ai la vérité, mais me raconter ma vérité et accepter que l'autre ait sa vérité, et puis essayer de toujours amener un bon message du Christ, la joie, la tolérance,
l'accueil,
les rencontres. T'as envie de pleurer, tu pleures, t'as envie de...
Une sorte de lâcher prise.
L'inverse de notre société où il faut contrôler nos émotions, là il faut faire tout le contraire, lâcher nos émotions. Et là on réussit un bon chemin.
Merci beaucoup Thibaut, dis donc c'est une belle rencontre hein, grâce à Michel. On comprend mieux hein, ce qu'est cet esprit du chemin. Alors, j'ai bien aimé aussi le tam-tam, là, l'info tam-tam.
Radio tam-tam, voilà.
Radio tam-tam.
Radio tam-tam. Tout se sait sur le chemin, tout se sait d'un gîte à l'autre.
On vous retrouve donc dimanche prochain pour la suite de votre voyage. Merci
on
beaucoup Thibaut. Et bon
ça,
chemin de Compostelle à dimanche prochain.
Merci Nathalie.
Au revoir.
Dimanche.
Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et je vous propose qu'on se quitte en musique avec Voulzy. Changer le...